Radio Rythme Bleu, il est 17h46, Info Soir, c'est avec vous, Gilles Ménage.
Retour sur les conditions d'un coup de théâtre, c'est Velma Falaeo, élue hier présidente du Congrès, qui était ce midi l'invité du magazine Transparence, extrait à suivre dans un instant. Économie et solidarité au menu des élus de la province Nord, la collectivité doit puiser dans son fonds de roulement, mais vote une avance pour la caisse locale de retraite. Le Nord, où la menace d'un désert médical se profile, la pénurie de médecins contraint plusieurs établissements à ne plus assurer les urgences. L'annonce n'est pas encore officielle, mais KNS se prépare à la mise en veille froide de l'usine du Nord. Reportage sur place auprès des salariés et des habitants. Le programme festif de votre week-end, il sera marqué par la suite du salon Saveurs et Traditions et plusieurs marchés municipaux qui animeront cette fin de semaine. Et puis nous évoquerons également les Jeux paralympiques avec demain l'entrée dans la compétition des Calédoniens. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc Velma Falaeo, la nouvelle présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence au lendemain de son élection. Elle a été interrogée sur la voie médiane que préconise l'éveil océanien et sur la façon dont elle veut gérer le Congrès, Jean-François Bonin.
Oui, l'élection de Velma Falaeo a créé la surprise hier puisqu'elle a été élue au second tour de scrutin par une majorité éveil océanien, loyaliste, rassemblement et Calédonie ensemble. Elle a obtenu 28 voix face au président sortant Roch Wamitan qui a recueilli 26 suffrages, mais elle refuse pour autant de parler d'un front anti-Wamitan.
Les collègues qui se sont prononcés en faveur de ma candidature hier se sont exprimés, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est leur choix, nous avons pris acte, nous prenons aujourd'hui nos responsabilités. Je pense qu'ils ont considéré cette troisième voie que nous portons depuis 2019. Pour nous, c'est simplement le fait aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un dynamisme, une volonté de reconstruire, une volonté aussi de se rassembler. Et je pense qu'être aujourd'hui à la tête du Congrès, c'est aussi l'opportunité pour moi et pour le mouvement que je représente de faire preuve d'initiative, notamment sur la question de l'avenir institutionnel.
Dans le discours qu'elle a prononcé juste après son élection, Velma Falaeo avait pris ses distances avec l'expression de majorité océanienne. Elle a été interrogée sur le sens qu'elle donnait à cette expression.
La majorité océanienne, c'est un terme qui a été utilisé par notamment le président sortant Roch Wamitan. Hier, simplement, dans mon allocution, je voulais expliquer que l'Océanie, pour nous, n'est pas une ethnie. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où nous devons travailler ensemble. C'est en fait, en tout cas, le travail que nous avons fait. Travailler avec des indépendantistes ne fait pas de nous des indépendantistes. Travailler avec les loyalistes ne fait pas de nous des loyalistes. À travers ce discours, à travers cette définition, je voulais simplement dire qu'il y a des valeurs de la République qui font écho à celles du Pacifique et qu'il est temps aujourd'hui que nous travaillions ensemble dans la même direction.
Mais vous n'avez jamais cru à une majorité basée sur les ethnies, que sous-tendait un peu l'expression majorité océanienne, quoi.
Pas sur les ethnies, sur les difficultés de la vie, sur l'amélioration du quotidien, sur l'inégalité. La majorité océanienne, elle était portée à un moment donné pour ça. Il y a eu le constat de ce qui s'est passé, il y a eu des événements terribles qui sont passés. Aujourd'hui, je pense que le pays n'a plus besoin qu'on parle de majorité, mais d'unité de l'ensemble des partis politiques. La population a besoin d'espoir et j'espère en tout cas insuffler cela au niveau du Congrès.
Première femme à présider le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Velma Falaeo veut organiser le fonctionnement de l'institution et elle s'est fixé des priorités avec trois axes essentiels.
Le premier concerne l'institution du Congrès, revoir son organisation, le dynamisme, les différents recrutements. Deux, c'est la coordination avec le gouvernement, parce qu'il y a un travail inter-institution à effectuer, notamment à travers tous les projets et les propositions de texte qui doivent arriver. Et trois, c'est l'avenir institutionnel. En étant à la tête de la présidence du Congrès, je prendrai l'initiative, parce que vous savez qu'au Congrès, il y a toutes les forces politiques réunies. Il est peut-être temps pour nous de nous voir, de discuter et d'envisager en fait les discussions pour l'avenir, puisque le dialogue aujourd'hui n'a pas été repris.
Velma Falaeo qui déclare espérer qu'avec sa bonne volonté et sa bienveillance, elle arrivera à faire en sorte que les élus puissent travailler efficacement sur les grands chantiers. Elle a aussi été interrogée sur le fameux mémorandum signé avec l'Azerbaïdjan, l'un des éléments qui est fortement reproché à son prédécesseur. Il lui a été demandé si elle allait le résilier.
C'est un point que je dois aborder, notamment parce que je me pose effectivement la question sur ce mémo qui a fait beaucoup débat, sachant que c'est Madame Neslin qui l'a signé et qu'elle n'était ni présidente ni vice-présidente. Donc pour moi, il n'y a aucune valeur juridique, cet acte est nul et non avenu. Maintenant, je vérifierai auprès des services, mais il n'est pas dans mes prérogatives, en tout cas, de donner suite à cela, étant donné qu'il n'y a pas eu non plus de validation du Congrès.
Une interview de Velma Falayo, la nouvelle présidente du Congrès, à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition 17h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et voici notre question du jour, justement. L'élection de Velma Falayo à la présidence du Congrès est-elle surtout, selon vous, un vote sanction à l'égard de Rocco Amitan? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 68% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la non-participation du PALICA et de l'UPM au congrès du FLNKS prévu aujourd'hui et demain peut provoquer l'implosion du FLNKS. Ils sont 32% à ne pas partager cet avis. Le week-end politique qui sera donc marqué par ce congrès du FLNKS, ce soir les délégations arrivent sur place à Koumac pour ce congrès qui aura lieu demain sous un format très particulier, vous le savez, puisque deux composantes du front, le PALICA et l'UPM, ont annoncé dans la semaine qu'ils n'y participeraient pas. Les deux partis estiment que l'ordre du jour a été établi sans consensus et soulignent l'absence de débat sur la stratégie de fond. Ils estiment également que les conditions d'apaisement ne sont pas réunies pour tenir un tel congrès. Autre rendez-vous politique avec le meeting demain matin du président de Génération NC, Nicolas Metzdorf. Il aura lieu à 9h, mais les participants seront accueillis sur place dès 8h. Il s'agit pour le député de la première circonscription de balayer l'actualité de ces derniers jours.
Pour faire un point sur l'actualité politique, l'élection de Velma Falayo à la présidence du Congrès, le Congrès du FLNKS, l'Union des non-indépendantistes, le nouveau gouvernement en métropole, tout ça avant mon départ pour la rentrée parlementaire, puisqu'ensuite je pars un mois, notamment pour étudier le budget de l'État qui doit consacrer une aide exceptionnelle à la Nouvelle-Calédonie.
C'est un meeting sous forme de réunion d'information ou c'est vraiment pour affirmer des positions politiques?
C'est pour affirmer des positions politiques sur l'avenir institutionnel, sur la relation avec les autres partis politiques non indépendantistes, sur les relations qu'on doit avoir aussi avec le FLNKS. Donc c'est vraiment un meeting ouvert au public pour annoncer le positionnement de Génération sur les prochains mois.
Le meeting de Nicolas Metzdorf, président de Génération NC, qui a donc lieu demain à 9h, demain matin à 9h, au Méridien à Nouméa. Il est 17h54, dans un instant, la suite de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Gilles Ménage.
L'Assemblée de la province Nord s'est réunie ce matin en séance plénière à Conay. Cette séance a permis notamment d'ajuster le budget de la collectivité en fonction de la diminution annoncée des recettes de la Nouvelle-Calédonie, qui serait de l'ordre de 4 milliards de francs. C'était l'un des deux dossiers importants du jour, explique Nadège Fèvre, première vice-présidente de la province Nord.
Nos services y ont travaillé, ils ont pu dégager plus de 700 millions déjà d'économies d'ici la fin de l'année, en maintenant le service aux populations quand même, nous y avons veillé, mais néanmoins nous avons dû puiser dans nos réserves, ce qui a réduit notre fonds de roulement aujourd'hui qui est de l'ordre de 6 milliards en chute en fin d'année. Le deuxième sujet, c'est effectivement la difficulté de la caisse locale de retraite qui nous a sollicité pour obtenir un petit peu de trésorerie, hein, parce que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie prend des mesures, hein, on est au deuxième acte, pour essayer de mettre cette institution à l'équilibre. Néanmoins, a sollicité la province pour avoir 3 mois d'avance de cotisation sociale, ce qui a été aussi adopté à l'unanimité.
Et au cours de la séance, le maire de Koumac, Wilfried Weiss, a attiré l'attention des élus sur le désert médical qui s'annonce en province Nord. C'est le cas notamment à Koumac, où la situation, dit-il, est très compliquée.
Sur les 28 postes de médecins au niveau des CMS déjà, hein, qui sont une compétence provinciale, il doit rester 6 ou 8 médecins en poste. Donc ça veut dire qu'il y a des secteurs tout entiers où il n'y a plus de médecins. Avec les problèmes du PSN et du CHN, il n'y aura plus d'urgence. Donc voilà, c'est une situation qu'on n'a pas connue depuis 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, faire un AVC dans le Nord, c'est-à-dire à Poum ou à Ouébua ou à Koumak, c'est la mort. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu attirer l'attention des élus de la province Nord. Fin juillet, on a fait un courrier au gouvernement parce que le CHN est quand même un établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Et on n'a toujours pas eu de réponse et on ne sait vraiment pas où on va.
Oui, Weiss, le maire de Koumak, interrogé par Kalinda Boikou. Le CHN, le centre hospitalier du Nord, indique justement qu'en raison d'une pénurie de personnel médical, infirmiers et médecins, il est contraint de revoir à la baisse les conditions d'accueil des patients. La direction vient de trouver un médecin remplaçant pour une dizaine de jours de plus pour Koumak. À Poindimier, il reste un médecin, mais le personnel infirmier fait défaut. Des détails avec Joachim Tutugourou, le directeur du centre hospitalier du Nord.
À Poindimier, pour l'heure, j'ai un médecin, qu'un seul médecin. Par contre, je n'ai plus assez d'infirmiers. Je ferme les lits d'hospitalisation parce que je n'ai plus assez d'infirmiers. Les urgences restent ouvertes comme c'était jusqu'à présent, le jour de 7h à 18h. Et elles sont fermées la nuit, donc à partir de 18h jusqu'aux 7h du matin. Et fermées aussi les week-ends. Pour Koumak, c'est un peu plus compliqué. Je viens de trouver, dans dernière minute, donc un médecin. Du 2, dans la date qui était supposée de fermeture donc des urgences, donc du 2 au 13. Donc j'ai un petit sursis. Avec donc des urgences ouvertes uniquement le jour de 8h à 16h, et elles sont fermées de nuit de 16h à 8h du matin. Ces mêmes urgences seront fermées le week-end, donc le premier week-end qui va venir, donc du vendredi 6 septembre, 16h, au lundi 9 septembre à 8h. Donc il y a le maintien des consultations et soins externes. Par contre, fermeture des lits d'hospitalisation aussi.
En cas de problème, lorsque les urgences sont fermées, les patients devront donc appeler le centre 15 de CHN, qui est actuellement en recherche active de personnel médical et paramédical. C'est en revanche une reprise très attendue. Les bus rails devraient circuler à nouveau à partir de lundi sur la côte ouest et même jusqu'à Puebo et Panier. Le réseau était suspendu depuis le 1er juin, mais les conditions de circulation se sont améliorées sur la côte ouest. Le SMTI a donc décidé de relancer le transport des bus rails sur les tronçons sécurisés. Toutes les lignes habituelles de la côte ouest vont donc reprendre lundi. Et le SMTI continuera en lien avec les communes à se tenir informées sur l'état du réseau routier.
RB 17h59.
L'usine du Nord se prépare à passer en veille froide. Si l'annonce n'a pas encore été faite officiellement, la date du 31 août devrait marquer le lancement d'une phase de transition dans la mise en sommeil du site de KNS, faute de repreneurs prêts à relancer Colombo Nickel dans les délais impartis. Sur place à la veille de la date fatidique, les employés sont évidemment marqués par ce nouveau cap qui s'apprête à être franchi. Le reportage sur place de Michael Juneski.
Un calme étonnant au cœur de l'usine de KNS, le site de Vavuto qui opérait il y a quelques mois encore 24 heures sur 24. Il n'est désormais plus occupé que par quelques 1200 salariés. Et à l'approche de la date butoir du 31 août, l'heure est à la planification du passage en veille froide.
Je m'appelle Winnie Guilly-Robert, je suis la directrice technique pour l'usine de Colombo Nickel. L'étape de veille froide, ça va être de mettre en arrêt du coup nos principales installations qui sont les deux fours. Pour y arriver, on a besoin de passer par une phase de transition qui sont deux mois sur lesquels nos équipes vont travailler pour justement arrêter dans les meilleures conditions tous nos équipements qui sont liés. Ça va consister, une fois que les fours vont passer à 0 MW, de pouvoir en fait maintenir toutes les installations qui auront besoin d'être maintenues un certain temps pour finir d'accompagner l'arrêt de ces fours. On a besoin de maintenir certains équipements pour maintenir le refroidissement, pour maintenir l'intégrité de ces installations justement. Et du coup, il y aura toutes des étapes pour pouvoir arrêter toutes les installations annexes qui sont nos générateurs d'électricité, nos utilités qu'on appelle, donc tout ce qui est approvisionnement en eau, air, gaz, donc azote et tout ça, qui permettait jusque-là de maintenir nos installations en phase veille chaude et qui vont du coup être arrêtées. Mais ce n'est pas des installations qu'on peut juste arrêter d'un seul coup. On a besoin en fait d'avoir tout un processus d'accompagnement pour les arrêter. L'idée, c'est de les laisser en condition pour qu'on puisse les redémarrer s'il n'y a jamais repreneur hier.
Il n'y aura plus que quelques 200 personnels pour assurer la suite des opérations sur les deux prochains mois. Un constat qui affecte évidemment les employés de l'usine encore sur place.
Stéphane Barthélémy, chef de département opération au four KNS. Voilà, les dernières tâches, c'est se préparer à la phase de mise à zéro du four. On a préparé 4 équipes qui vont tourner au quart, jour et nuit, afin de finaliser l'arrêt du four pour s'assurer que quand il n'y aura plus personne sur site, il n'y a plus de danger ni de risque pour les installations, pour les personnes encore qui restent, pour la communauté autour et l'environnement.
Vous-même, ça fait combien de temps que vous travaillez à KNS ?
Ça va faire 10 ans que rentré technicien et maintenant chef de DEP, donc une belle évolution, mais un crève-cœur de partir, mais ça fait c'est comme ça, ça, c'est la vie. Pour l'instant, on ne se focus pas trop sur l'avenir. Hein. On gère les gens qui vont devoir rester. C'est déjà pas évident pour soi, mais c'est aussi pas évident pour les personnes qui restent avec qui on va travailler. Donc on essaie de les accompagner au mieux. Les moyens de contrôle qu'on a mis en place après le 31 août, en tout cas, ça va être un peu différent de ce qu'on a actuellement. Donc c'est toute cette partie accompagnement, organisation.
C'est quoi qui revient le plus souvent dans les discussions entre collègues ?
En ce moment, la plus grosse discussion, c'est quand est-ce qu'on met le four à zéro ? Après, la plus grosse discussion, c'est qu'est-ce que tu as prévu après ? C'est surtout ça. Nous, on avait déjà ces problématiques-là depuis 6 mois, de se dire c'est bientôt fini. Avec ce qui s'est passé depuis le 13 mai, c'est encore plus compliqué pour nous de se projeter. Donc, chacun partage un peu où est-ce qu'il en est dans son avenir. Les CV, les entretiens, les offres qu'ils voient à droite à gauche, on essaie de s'entraider entre nous aussi.
Au pied des fours, dans les couloirs du site industriel, certains rangent leurs casiers et plient leurs affaires sous le regard de ceux qui ont encore une mission à assurer à KNS.
Je suis Nasson Chloé, alors je suis coordinatrice de production, alors maintenant si je peux dire extinction. Du coup, en ce moment, je vais suivre sur les prochaines semaines. Je serai plus sur de la coordination veille froide en préparation de ce qu'on fera. Alors déjà, c'est très dur émotionnellement. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on va perdre des collègues. En tout cas, on garde beaucoup de bons souvenirs. On a aussi, grâce à cet outil de travail qu'on a dans le Nord, on a beaucoup grandi dans le monde professionnel et aussi sur le côté humain avec les personnes. Beaucoup d'évolution des gens et puis sur le comportement, la conscience professionnelle. On a vu beaucoup de gens évoluer. Je me suis vue aussi progresser dans ma carrière professionnelle et surtout aussi que c'est ma première expérience depuis la sortie d'école. 2010-2011, on a suivi une formation, on a vu la pause de nos installations. On va pas dire que tout s'achève, c'est juste une histoire, une page qui se tourne. Ce projet, on croit qu'elle va reprendre un jour.
Les opérations seront lancées dès la confirmation officielle du passage en veille froide, alors que la date butoir prévue est celle du 31 août. Après quoi, ce que tout le monde a à l'esprit ici, il faudra encore espérer l'annonce d'un potentiel repreneur pour décider du sort de l'usine du Nord. Depuis Koné, Mickaël Juneski, RRB.
Et on le sait, la fin des activités sur le site de Vavuto est aussi un coup dur pour l'ensemble des activités économiques de la zone VKP. Illustration avec ces quelques témoignages recueillis à Koné.
Déjà, nous, pour les travailleurs, c'est vrai que ça va vraiment impacter. C'est vrai qu'on risque un peu d'être impacté dans la boutique. Après, c'est vrai qu'on a principalement des clients jeunes, donc tout ce qui est lycéens, collégiens. Mais après, certes, ça reste leurs parents qui leur payent leur tenue. On verra après, par la suite, comment ça va se passer, quoi. Donc nous, c'est pas tout de suite, ça va être par la suite qu'on verra bien.
Il y a plein de gens qui sont partis et ça sera l'année prochaine qu'on verra les résultats. Et plein de chantiers qui ont été annulés, maisons qui ne vont pas se faire, gens qui ont perdu le travail. Et donc c'est déjà difficile pour eux et c'est l'année prochaine qui sera difficile pour nous.
J'ai la friperie à Koné. L'activité elle est vachement réduite. Entre l'annonce du départ de Glencore et les événements qui se passent, plus dans le sud, mais en répercussion là aussi dans le nord. On a envie de voir le bout, on sait que ça sera dur, on sait que ça sera long, on sait qu'il va falloir se battre. Nos institutions nous accompagnent bien, on espère les beaux jours.
Et on rappelle que les collectivités avaient mis en place à court terme des dispositifs d'aide pour accompagner toutes les professions qui sont déjà impactées par la crise du nickel en province nord. Une avancée pour Lagoon, 2 semaines après la cyberattaque qui a paralysé les services de l'opérateur. Dès lundi, le fournisseur d'accès Internet va rouvrir 2 de ses boutiques pour accueillir ses abonnés. Sont concernées les boutiques de Port-Plaisance et de Koné du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Écoutez les précisions de Stéphane Mathéo, le directeur général de Lagoon.
On a récupéré donc les outils internes pour pouvoir traiter les demandes de nos abonnés. Les demandes de cette ouverture, ils ont des questions bien sûr et aussi des opérations à effectuer. Il y a beaucoup de travail, nous sommes aussi sur la phase des messageries. Nous avançons sur ce sujet, on ne peut pas encore se prononcer. Concernant les professionnels, c'est un travail de fourmi qui demande beaucoup de minutie. On ne veut pas réouvrir ce que nous pouvons réouvrir sur les services au Fratel ou Lagoon ou des entreprises et exposer à une deuxième attaque. Donc beaucoup de précautions. Jusqu'où nous pourrons avancer dans nos travaux est encore incertain.
Le standard est également de nouveau opérationnel du lundi au vendredi. Le service technique et le service commercial sont joignables par téléphone au 28 88 88, le 28 88 88. Et puis, comment vous alimentez-vous en cette période de crise? C'est la question qu'a posée le cluster Pacific Food Lab au Calédonien dans une enquête en ligne qui a été lancée au début du mois d'août, Léana Colombo.
Les Calédoniens ont-ils remplacé les produits comme le riz et les pâtes par des tubercules, par exemple? Rencontrent-ils des problèmes pour s'approvisionner ou des soucis budgétaires? Voici quelques-unes des questions que l'on peut retrouver dans cette enquête encore disponible sur les réseaux sociaux de Pacific Food Lab. L'objectif, récolter le plus d'avis possible afin d'appréhender les nouvelles habitudes de consommation depuis les émeutes du 13 mai, mais aussi d'aider les chefs et les producteurs membres de Pacific Food Lab à s'adapter à ces demandes. 350 personnes ont répondu jusque-là. L'échantillonnage est donc représentatif, en tout cas sur le Grand Nouméa. Les précisions de Charles Huillot, le manager du cluster Pacific Food Lab.
Les gens ont changé leur comportement déjà. Il y a quand même plus de produits locaux. Mais le premier point qui ressort de l'enquête, surtout de façon vraiment très marquée, c'est l'impact de l'alimentation sur le budget alimentaire des familles, quoi. Où il y a un peu plus de 80% des répondants qui ont senti une augmentation de leur budget. Ils l'ont qualifié d'à peu près de 50%. Ils achètent essentiellement en supermarché, ça reste un des points d'approvisionnement clés, mais ils ont augmenté la part sur les marchés locaux, les marchés de proximité. Voilà, ça représente un gros tiers de leurs approvisionnements. Maintenant, c'est les marchés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a à peu près un quart des répondants qui nous a dit qu'ils utilisaient le troc. Un des points qui ressort, c'est que les gens ont besoin d'être accompagnés sur l'utilisation des produits locaux.
Pacific Food Lab va donc s'adapter en informant le plus possible sur les produits locaux et sur la manière de les préparer. Le cluster va proposer des bons plans pour faire ses courses et des recettes anti-gaspi. La clé, selon lui, pour faire des économies tant dans les familles que dans les cantines. Et on peut encore répondre la semaine prochaine à cette enquête proposée par Pacific Food Lab sur ses réseaux sociaux.
Un bilan plutôt positif une semaine après le coup d'envoi des soldes d'hiver, des remises inédites pour une première semaine. Les articles affichent des prix allant de moins 50 à moins 80%, des affiches publicitaires, des publications sur les réseaux sociaux, les opportunités se sont multipliées pour inviter les Calédoniens à venir profiter des bonnes affaires après des événements. Rue de l'Alma, les commerçants sont agréablement surpris de cette belle affluence après une première semaine de soldes.
Agréablement surprise. Je pensais vraiment que avec tout ce qui se passe en ce moment, ça allait mal se passer les soldes. Et puis non, agréablement surprise.
On a quand même beaucoup de passages, beaucoup de gens qui viennent voir ce que nous proposons pour les soldes.
On a vendu beaucoup de soldes, on a vendu aussi beaucoup de nouveautés. Je pense qu'il y a une partie des gens quand même qui sont venus pour les soldes, qui se promenaient en ville, qui se sont dit on va venir voir là aussi. Nous, les années précédentes, on était peut-être 8 filles à travailler. Et là, c'est vrai qu'on a besoin d'être beaucoup moins, même si c'était quand même très satisfaisant le retour des clientes qu'on a eues et le monde qui était là. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que par rapport à avant les événements, on a quand même beaucoup de nouveaux clients qu'on n'avait jamais vus. Et en fait, j'estime que c'est parce que avec tout ce qui a brûlé, les endroits qui ne sont plus là, la ville, en fait, elle revient un peu.
On a quand même eu des gens qui allaient peut-être plus souvent à l'extérieur de la ville et qui, cette fois-ci, voilà, eh bien, viennent maintenant au centre-ville pour le bonheur de tous les commerçants, bien évidemment.
Voilà, et on rappelle que les soldes d'hiver se poursuivent jusqu'au 22 septembre prochain. Le week-end est là et avec lui l'occasion de sortir, bien sûr. Le salon Saveurs et Traditions se poursuit demain samedi de 9h à 16h à la Chambre des métiers et de l'artisanat, Léana.
Et oui, il s'achève, dimanche à 14h. L'occasion de découvrir la gastronomie locale et d'ailleurs autour d'une quarantaine d'artisans locaux. La cérémonie d'ouverture du salon Saveurs et Traditions se tenait d'ailleurs ce matin à Nouville. Yoann Lecourieux, membre du gouvernement, était présent à la cérémonie d'ouverture pour souligner l'importance de ce salon dans la relance économique des artisans.
C'est très important parce qu'il faut soutenir les producteurs locaux. On voit qu'il y a des produits bruts, mais aussi des produits transformés. Donc c'est important et on voit qu'ils viennent de partout, de toute la Nouvelle-Calédonie. C'est la renaissance de l'ensemble des artisans et notamment là aujourd'hui sur les saveurs de Nouvelle-Calédonie, très représentatives de l'ensemble de la population. Donc c'est très intéressant et on voit que les gens répondent présents. Il y a déjà énormément de visiteurs depuis hier et cela perdure jusqu'à dimanche. Et donc j'invite l'ensemble des Calédoniens à venir découvrir l'ensemble de la richesse culinaire de la Nouvelle-Calédonie, quoi.
Et parmi les autres personnalités présentes lors de cette cérémonie d'ouverture, Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pour rappel, le salon se poursuit demain de 9h à 16h et puis dimanche de 9h à 14h.
Et dans votre programme festif également, les traditionnels marchés municipaux se tiennent dans plusieurs communes.
C'est le cas ce samedi à Rivière-Salée, au parc Guégan et Païta sur la place du marché. Ce dimanche, vous aurez le plaisir de retrouver le marché Broussard à Boulary cette fois. À noter que le marché de Moindou reprend également ce dimanche 1er septembre.
Et puis c'était également le week-end des bonnes affaires avec plusieurs vide-greniers qui sont organisés.
À commencer par le vide-grenier du centre-ville qui se tient tous les premiers dimanches du mois à la place des Cocotiers de 7h à 12h30. Et puis pour les sportifs, le Tennis Social Club organise sa brocante au receiving de 8h à midi ce dimanche. Enfin, l'Association des citoyens mondoriens organise sa brocante au Parc Bloc de Ploum ce dimanche également.
Et pour les plus petits, maintenant, le Château Hagen organise son premier soupe spectacle demain.
Un principe plutôt original, le public apporte un légume, les comédiens en font des contes et des chansons. Le spectacle s'achève ensuite par un partage de la soupe aux légumes. Ça se passe demain à 15h30 au Château Hagen pour les plus curieux.
Merci Léana, à 18h12, dans un instant le sport.
Rêvez d'une salle de bain moderne, DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse, rrb@rrb.nc. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et le sport, Gilles Ménage.
Et l'actualité sportive, c'est bien sûr d'abord celle des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB, avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Oui, avec une annonce importante, Léo Fichou, puisque les Calédoniens entrent dans la compétition ce week-end.
Et oui, ils sont 3 Calédoniens, on le rappelle, engagés en para-athlétisme. Et ça y est, c'est leur moment dans la nuit de demain à dimanche. Vitolio Cavacava participera au lancer du javelot dans la catégorie F57. Début de la compétition pour lui à 4h, heure de Nouméa. Et quelques minutes plus tard, à 4h20, donc toujours dans la nuit de demain à dimanche, Félicien Siapo sera au départ de la demi-finale du 100 mètres dans la catégorie T44. Enfin, dimanche soir, 21h53, Pierre Fairbank s'élancera sur la demi-finale du 400 mètres fauteuil. C'est la catégorie T53, avant, on l'espère, de participer à la finale dans la nuit qui suit, de dimanche à lundi.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB, avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, le football d'abord avec la 3e journée de Ligue 1 ce week-end et de belles affiches en perspective.
Un choc dans la nuit de dimanche à lundi, effectivement, avec un duel entre les deux leaders, Lille et le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, la 3e journée débutera demain matin à 5h45 avec Lyon-Strasbourg. Dans la nuit de samedi à dimanche, Brest recevra Saint-Étienne, Montpellier accueillera Nantes et Marseille se déplacera à Toulouse. Enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura le droit à Monaco-Lens, Angers-Nice, Le Havre-Auxerre et enfin Reims-Rennes. Ça jouera aussi dans les autres championnats européens et des chocs sont aussi au programme. En Italie notamment, la Juve recevra la Roma et puis en Angleterre, Liverpool affrontera Manchester United et Tottenham ira à Newcastle.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1, donc, et l'écurie Ferrari ce week-end, Léo joue à la maison.
Rendez-vous effectivement à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Charles Leclerc est attendu par les Tifosi qui espèrent un nouveau sacre 5 ans après celui de 2019. Le Monégasque est en forme, il est monté 2 fois de suite sur le podium, 3e aux Pays-Bas la semaine dernière, 3e également en Belgique fin juillet. Les Français, eux, tenteront de rentrer dans les points. L'an passé à Monza, Esteban Ocon avait terminé 17e, Pierre Gasly 14e. On écoute le Français qui fait le point avant le Grand Prix.
On sait que c'est un tracé qui est compliqué pour nous, c'est le plus sensible en termes de puissance moteur sur l'année. On sait qu'on a un petit déficit, donc la saison dernière c'était vraiment très très compliqué ici. Après, je pense qu'on avait bien réagi à Las Vegas, qui était un tracé aussi avec des très longues lignes droites. On avait un petit peu changé, on avait une nouvelle aile arrière qui nous avait bien aidé. Donc Voilà, je sais que ça va être compliqué, mais je pense aussi que ça va être mieux que la saison dernière. Et voilà, on arrive avec des armes un peu meilleures que la saison dernière.
Rendez-vous donc à minuit dans la nuit de dimanche à lundi pour le départ du 16e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Italie.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours avec la MotoGP. Les pilotes seront en Espagne cette fois pour le Grand Prix d'Aragon.
Oui, un Grand Prix qui est de retour après son absence l'an dernier du championnat. En 2022, c'est l'Italien Bastianini qui s'était imposé. Johann Zarco avait terminé 8e. Fabio Quartararo avait lui abandonné après une chute. La course sprint aura lieu à minuit dans la nuit de demain à dimanche. Le départ de la course principale sera lui donné dimanche soir à 23h.
Du rugby dans la région avec la 3e journée du Rugby Championship.
Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Afrique du Sud, qui reste sur 2 victoires contre l'Australie, affronte la Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi de la rencontre à 2h, heure de Nouméa. Et ensuite, à 9h dimanche matin, l'Argentine affrontera l'Australie. Au classement, après deux journées, l'Afrique du Sud est en tête avec 2 victoires. Donc, les All Blacks sont 2e. L'Argentine complète le podium. Et enfin, en dernière position, on retrouve l'Australie avec 2 défaites.
Du tennis avec l'US Open qui continue sans français, mais avec une française.
Une véritable hécatombe au second tour du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Tous les Français sont éliminés. Il ne reste plus effectivement qu'une seule tricolore dans le tableau féminin. Jessica Ponché disputera le 3e tour du tournoi américain contre Caroline Wozniacki. Ce week-end se joueront également les premiers 8e de finale hommes et femmes.
Golf, la suite et fin de la FedEx Cup aux États-Unis.
Les 30 meilleurs golfeurs de la saison sur le PGA Tour disputent la finale de la FedEx Cup depuis hier. Et après la première des 4 journées, l'Américain Scottie Scheffler est en tête avec une carte de 16 en dessous du par. Mathieu Pavon réalise lui une belle première journée. Il passe de la 24e à la 14e position.
Allez, l'actualité du sport en Calédonie avec du football sur le territoire ce week-end et le trophée du Grand Nouméa.
On jouera la 2e journée de la nouvelle compétition mise en place par le Dumbéa FC. Après un faux départ mardi suite à un problème d'éclairage au parc des sports de Coutio, 2 matchs se sont joués hier soir et 2 autres se joueront demain après-midi toujours à Coutio. À 14h, Tiga Sport affronte Dumbéa FC et à 15h45, Horizon Sport jouera contre l'Est Wetch.
Et puis ce sera aussi ce week-end le retour des courses d'orientation.
Après 3 mois d'arrêt à cause des émeutes, la course d'orientation revient enfin demain sur le territoire. L'association Convergence organise à Pocreux, sur une propriété privée, la première course ouverte à tous. Florent Magnier, l'organisateur de l'événement, le confirme et il y en aura pour tous les niveaux.
Il y a vraiment des circuits de tout niveau. Ça va du circuit enfant au circuit familial, au circuit sportif. Mais il y a aussi des circuits intermédiaires. Donc tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Et c'est le cas sur chaque course d'orientation qui est organisée sur le territoire. Il y a toujours une multitude de circuits pour que chacun puisse s'amuser. L'objectif, c'est d'être en pleine nature, de faire une activité ludique et sportive, et donc de découvrir aussi les coins qu'on ne connaît pas, puisque cette propriété, vous n'y accédez pas sans y être invité. Donc ça permet d'allier vraiment le côté sportif, ludique, découverte, le tout en pleine nature, dans un cadre magnifique et vraiment sympa.
Et à noter que pour les plus compétiteurs, la course d'orientation de ce week-end servira d'entraînement en vue des championnats d'Australie qui auront lieu fin septembre, début octobre. Une petite 20aine d'orienteurs calédoniens sera engagée en Australie.
Et puisque nous sommes en pleine nature, eh bien restons-y, Léo Fichou.
Oui, rendez-vous dimanche dès 7h45 au Yala Ranch de Dumbéa Rivière pour le Yala Trail. 3 distances seront proposées avec différentes formules. Un trail de 15 km chronométré avec près de 900 mètres de dénivelé positif, un trail également de 10 km chrono ou en rando et enfin une rando de 3 km. Ça c'est la rando Yala Family Track. Des balades en poney pour les enfants seront également proposées.
Allez, un dernier mot de l'actualité sportive sur le territoire avec un tournoi de basket 3 contre 3, ce sera demain.
Et oui, la Ligue de basketball de Nouvelle-Calédonie organise un tournoi open dans la catégorie senior. Considéré comme le sport urbain par excellence dans le monde, le basket 3 contre 3 était, on s'en rappelle, aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Demain, les matchs démarreront dès 9h30 à la halle de Dumbéa Centre. La finale se jouera en début d'après-midi autour de 14h.
Merci Léo Fichou, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
On vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, la nuit sera bien étoilée, en particulier sur l'ouest. Sur l'ouest, à l'abri de la chaîne, le vent deviendra variable faible. Ailleurs, le vent de secteur est se maintiendra autour de 10 nœuds. Les températures minimales resteront comprises entre 12 et 17 degrés dans l'intérieur, sur l'ouest, Lifou et Marais, et entre 17 et 21 degrés ailleurs. Demain matin, le temps restera sec et très ensoleillé, pardon, en particulier sur l'ouest. Le vent sera faible sur l'ouest en début de journée. Sur les autres régions, il soufflera de secteur est entre 10 et 15 nœuds. Localement, un bon 15 nœuds, ce sera sur la pointe nord, Gilles.
Merci Nicolas pour tous ces détails. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.